Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenue dans le paddock RMC, votre rendez-vous F1 tous les lundis, lendemain de Grand Prix, tous les jeudis en amont des Grands Prix. Ce sera le cas cette semaine avec ce fameux Madrid, on en parlera évidemment jeudi, et on va revenir sur ce week-end italien toujours si particulier à Monza, le temple de la vitesse. Notre team principal from Miami est avec nous. Salut Jean-Luc.
Et bah salut Arnaud, bonjour à tous.
Et notre ingénieur, notre bono à RMC, c'est Séraphin Bette qui est avec nous. Salut Séraphin.
Salut messieurs, bonjour à tous.
Vous avez aimé votre week-end?
Oh oui, ah bah... Et je dirais presque même le samedi était un jour de gloire pour la France.
Un jour cocorico, hein, Jean-Luc. On a vécu un super week-end. Hein.
Ah ben un week-end exceptionnel. De toute façon, Monza, c'est souvent le cas, hein, parce qu'encore une fois, tu l'évoquais en ouverture, le temple de la vitesse et puis cette passion évidemment des tifosi, ce cadre absolument somptueux qui rappelle plein de souvenirs. Non, c'est un endroit exceptionnel et là, on en peut dire qu'on a été servi merveilleusement avec cette pole de Pierre. On va y revenir dans le détail, merveilleusement joué par lui-même et par l'équipe. Écoute, ça engageait vraiment le week-end de manière magnifique.
Et on a peut-être assisté à un tournant quasi décisif, même s'il reste 10 Grands Prix à venir. Mais Kimi Antonelli, auteur d'une remontée fantastique, parti 19e, il avait changé son moteur. Sera-t-il le prochain champion du monde des pilotes? La voie est en tout cas royale pour le jeune Italien. Alors que le Fratelli d'Italia a bien raisonné, Ferrari avait vécu un week-end catastrophique, parce que c'est à la maison, tout simplement à Monza. P6 pour Hamilton, Leclerc encore dehors à la parabolique comme en 2020. Et surtout une ambiance de plus en plus délétère au sein de la Scuderia entre ces deux pilotes. L'ascenseur émotionnel de Pierre Gasly, première pole française depuis Monza 97 avec Jean Alési sur Benetton Renault. Le pilote français termine dans les points mais a perdu son podium. Vendredi, il l'a appris, il a perdu son podium de Monaco après une décision de la cour d'appel de la FIA 3 mois après la course. C'est pour ces fameuses pénalités pour dépassement de vitesse dans la pit lane, dans la ligne droite des stands qu'on a évidemment avancé. On a rajouté un 11e garage à Monaco. Ça a fait des débat. Bon, ce qui atténue légèrement notre déception, c'est que cela bénéficie à Isaac Hadjar qui, avec un poignet cassé, signe donc un podium en Formule 1. Il était déjà sur la photo à Monaco parce qu'on avait déjà déclassé Pierre Gasly avant de le reclasser quelques jours plus tard. Et là, pour finalement le déclasser, on en parlera tout à l'heure. Mais justement, puisqu'on parle de Kimi Antonelli, tout simplement, les émotions à Monza, c'était hier. Soit 100 ans que l'Italie attendait ça, Jean-Luc, évidemment, c'était Scarfiotti qui avait signé la dernière victoire italienne à Monza, c'était à bord d'une Ferrari. Et ce qui est à noter aussi, Jean-Luc, puisque si on fait de l'histoire et c'est important, c'est le premier vainqueur italien dans une voiture qui n'est pas italienne.
Eh oui, ça fait beaucoup de premières, effectivement, et je crois qu'il va falloir s'y habituer. On est en train de s'y habituer avec Kimi Antonelli, qui est, bon, on a déjà utilisé beaucoup de superlatifs, il va falloir en trouver d'autres, qui est étonnant, étincelant, fantastique. Écoute, je n'ai pas... Qui commet très très peu d'erreurs, voire aucune en l'occurrence, qui vraiment, ou quand il en commet une légère, il la rattrape. On l'a vu dans la chicane, on va revenir sur le détail de sa course et cette remontée absolument fantastique. Écoute, il a déjà pulvérisé beaucoup de records, hein, avec les pôles, les victoires. Bah, le titre, tout le monde l'attend. Alors, on ne veut pas lui porter la poisse surtout, et je touche du bois en disant ça, parce que ce sont des sports mécaniques. Il reste 10 Grands Prix. Tout peut encore arriver. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il a bien raison. La seule manière de se concentrer, c'est de dire je prends les Grands Prix les uns après les autres et je fais de mon mieux. Mais là, il faut reconnaître que ce qu'il a signé là, c'est digne une nouvelle fois des plus grands. On est obligé, évidemment, d'évoquer Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, les plus grands, donc les plus grands champions du monde de l'histoire de la Formule 1, et j'en oublie évidemment beaucoup du passé, d'auparavant. Mais ça veut dire qu'il a le caractère, il a le talent, il sait utiliser sa machine comme personne, en tout cas beaucoup mieux que son équipier, oui. On va y venir aussi. Bah oui, il y a une histoire de stratégie, mais bon, je pense qu'au-delà de tout ça, c'est surtout la manière de performer au volant de cette monoplace qui fait la différence. Bref, il n'a peur de rien, il n'a absolument peur de rien, et surtout du meilleur. Et quand on se rappelle qu'il y a deux ans, presque jour pour jour, eh bien, il avait participé, vous en souvenez comme moi, à la FP1. Ouais, et là aussi, survolté à 18 ans à peine, hein, depuis quelques jours. Bah, il s'était mis, lui aussi, dans le rail, dans la parabolique. Vous vous rappelez de ça? La voiture s'était même pas arrêtée, que Toto Wolff était en train de lui dire à la radio « Mais non, c'est pas grave, ça va aller ». Bon, voilà, c'était des débuts, là aussi, étincelants. Il faut dire qu'au bout de 5 tours, c'était lui l'homme le plus rapide de la FP1. Hein. Bon, voilà, c'est pour l'anecdote.
Avant de s'intéresser à la course d'Antonelli, Séraphin, Jean-Luc en parlait, quand on voit et quand on pense au plus grand retour de pilotes partis du fond de la grille, on pense évidemment à Max Verstappen, le Brésil, en 2024, il part P17 et il fait une remontée fantastique. Il y a Lewis Hamilton, j'ai noté, la Hongrie 2014, il part des stands, il avait changé le châssis, parce que ça, il y a une différence entre partir parce que soit on est pénalisé ou partir des stands parce que durant le week-end, on change des éléments sur la monoplace. J'ai Schumacher 95 à Spa, là aussi, où il fait une remontée. Voilà, je vais m'arrêter là et on pourrait remonter, mais c'est que des immenses noms et des immenses champions. Là, Kimi Antonelli, il met son nom dans une liste très prestigieuse. Alors, il y a aussi des pilotes comme Barrichello, je crois, Raikkonen, qui ont fait des remontées. Bon, champion du monde aussi, hein, pour un autre Kimi, mais là, il fait une performance que seuls les plus grands font dans l'histoire de la Formule 1.
Absolument, et je trouve que ça rend le pilote encore plus complet finalement, parce qu'on a cette saison où vraiment il a éclos et on a vu un pilote de grand talent. Mais le fait de faire cette performance, donc remonter une course en partant d'aussi loin et réussir, parce qu'on pourrait se dire, oui, il avait un moteur neuf, il a la meilleure voiture, mais c'est quand même pas la même chose quand on est dans la voiture. Il faut savoir doubler et éviter aussi du coup les grabuges qui peuvent être à droite à gauche. Et donc je trouve que ça lui rajoute presque à son palmarès. Voilà, il a fait ce genre de réussir à gagner en faisant une remontée d'aussi loin. Je pense que même avant le week-end, on pouvait espérer un podium. Mais je trouve que le voir doubler son coéquipier, parti quand même deuxième sur la ligne de départ, je trouve que l'image de voir son coéquipier se faire doubler par son coéquipier, ça montre à quel point il est très polyvalent, ce pilote. Il l'a montré encore ce week-end avec cette victoire. Et j'avais même noté, pour se rendre compte quand même, qu'en partant à la 19e position au premier tour, il s'est retrouvé 12e, donc au moment du drapeau rouge. Évidemment, on va en parler après. Donc au bout de 3 tours, hein, au moment du drapeau rouge, de l'accident de Charles Leclerc, il est déjà 12e. Et ensuite, au moment de la reprise de la course,
il arrive P6.
On refait un tour de formation, etc. Sixième, ouais. Il se retrouve 6e. Et au 16e tour, il double Verstappen quand même pour s'emparer de la deuxième place. Verstappen qui était en bataille d'ailleurs avec George Russell. Et ensuite, au 18e tour, il double George Russell avant, on le sait, de faire un arrêt au stand autour du 28e tour, si je dis pas de bêtises, pour chausser des pneus médiums neufs. Mais donc, du coup, évidemment, il va le redoubler après avec ses pneus neufs. Mais voilà, déjà au 18e tour, il était déjà en tête du Grand Prix. Je trouve ça extraordinaire,
et
vraiment.
D'ailleurs, pour être complet, quand il passe Verstappen, les deux ont exactement le même type de gomme, des médiums, avec la même durée aussi.
Bien sûr.
On l'a changé au moment du drapeau rouge de Charles Leclerc. Évidemment, ce qui est clé dans sa course, au-delà de l'arrêt optimisé sous Virtual Safety Car qui lui permet d'aller chercher Russell avec des pneumatiques médiums plus récents, Jean-Luc, c'est évidemment ces deux départs où il refait quasiment tout son retard et il se retrouve sixième à peine 10 tours faits à Monza, où déjà le premier départ est excellent et le deuxième après le drapeau rouge de Charles Leclerc, Jean-Luc, bah là aussi toute la puissance. Il y a évidemment l'homme mais aussi la machine. On sait que la Mercedes en déploiement d'énergie, il y avait eu beaucoup d'intox, on sait qu'ils ont clairement la meilleure voiture, surtout sur un circuit moteur, Jean-Luc. Hein.
Oui, ça on l'a clairement compris. Si tu veux bien, on y revient dans un tout petit deuxième temps. Bien sûr que en Formule 1, il faut toujours la machine pour s'imposer et réaliser ce type d'exploit. C'est une évidence absolue. Si on ne l'a pas, et on connaît plein de bons pilotes qui malheureusement végètent en fond de grille, alors que si on leur donnait le volant d'une Mercedes, ça irait beaucoup mieux, évidemment. Alors, pour en revenir à sa remontée, on l'a vu en caméra embarquée, hein, vous l'avez regardé comme moi, c'est une leçon de pilotage. Écoute, c'est de clairvoyance, de là aussi... Pas de précipitation, pas d'énervement. On pouvait craindre, légitimement justement, qu'il se retrouve embarqué dans de mauvais cas au passage de ces fameuses variantes d'El Reti, Filo, Della Roggia et Ascari, qui se retrouvent en difficulté. Eh bien non, à chaque fois, il est tranchant, il est déterminant. Et puis, vous savez, moi, j'ai une image qui me revient en tête. Les grands pilotes, eh bien, ils sont craints par leur père. Ils sont craints par les autres pilotes. Et ce qui est en train de se passer avec Antonelli, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il est seulement dans sa deuxième saison de Formule 1. Et quand le museau de sa Mercedes apparaît, quand on voit son casque, là, en l'occurrence aux couleurs du drapeau italien, hein, puisqu'il avait demandé à son pote Valentino Rossi s'il pouvait faire peindre le casque de cette manière-là, eh bien là aussi, c'est magnifiquement bien joué. Donc, il s'impose, les pilotes ne s'y opposent presque pas. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, ça y est, ok, il est là, et il va me passer tôt ou tard, il vaut mieux que je le laisse passer et que je me remette derrière pour pas perdre de temps. Ce qui est un bon calcul. Mais ça veut dire qu'il y a très peu de pilotes dans le paquet qui ont cette réputation-là. Bon, là, clairement, il y a Verstappen, il y a Hamilton, bien sûr, voilà. Mais il est en compagnie des plus grands alors qu'il n'est pas encore champion du monde. Et ça, ça aide. Donc, pour en revenir à cette remontée météorique, cette cavalcade extraordinaire, non, il n'y a pas de mots pour... Effectivement, tu l'as évoqué, Arnaud, on peut se replonger dans le passé, même s'il est toujours difficile de comparer exactement. Ce n'est pas les mêmes circuits, ce n'est pas les mêmes machines... Ça ne s'exploite pas de la même manière, etc. Là, ce qu'il a fait, c'est tout simplement fabuleux, c'est grandiose, c'est digne d'un champion du monde. Voilà, je l'ai dit.
Séraphin, puisque Jean-Luc parle de Kimi, c'est un gentil garçon. Et Toto Wolff le dit, mais on peut être champion du monde en étant gentil garçon. On l'a vu un petit peu avec Lando Norris l'année dernière, même si on a vu aussi un peu du caractère. Et on l'a encore vu avec les deux victoires de suite de Lando Norris, qu'il avait du caractère. Mais Kimi, c'est un gentil, à l'image de sa bataille avec Russell, où justement, Rétifilo, première chicane, bah, il voit qu'il est un peu large, bah, il n'hésite pas à aller dans le gravier, il ne force pas. C'est pas Max Verstappen qui fait un plongeon, un dive bomb en essai libre sur Lewis Hamilton dans ce même virage. C'est quand Jean-Luc dit il fait peur, il en impose, mais on sait aussi que c'est pas un fou et qu'il est il est plus propre que propre dans son pilotage.
On le voit quand même sur ses attaques, il va pas à la première opportunité essayer de passer, il va aller construire ses attaques, il va aussi évidemment recharger sa batterie et le déployer au bon endroit. On sait que ça a énormément joué quand même ce week-end, donc je suis d'accord, il est intelligent en fait dans ses attaques. Et ce côté un petit peu gentil, oui, il est super jeune, hein, il vient d'avoir 20 ans là fin août, donc Faut quand même se le rappeler. Il était en F4, il a fait une année de F2, hop, directement en Formule 1. Et voilà, il est encore en train d'apprendre en fait toute sa carrière finalement de Formule 1, mais au meilleur niveau avec la meilleure voiture. Et il est en train de magnifiquement réussir. Et c'est vrai que Jean-Luc le dit aussi. Je trouve que on voit quand même qu'il fait de moins en moins d'erreurs. Il avait quand même en début d'année des petites erreurs, des petits drapeaux aussi pour les limites de piste un peu trop souvent. Ça pouvait lui faire perdre quelques situations. Là, on voit quand même que depuis plusieurs courses, il est très propre dans ses exécutions globales des Grands Prix. Et donc ça, c'est positif aussi. Ça montre sa maturité.
Et ce qui est au-delà du fait que c'est un jeune gamin, Jean-Luc, il a eu 20 ans là, fin août.
Le 25 août.
C'est quand même... on a tellement l'habitude d'avoir des mavericks, des rebelles, des pilotes très autoritaires dans la façon de s'imposer sur les dépassements. Là, Kimi Antonelli, il dégage une autre forme d'autorité. Quand je dis autoritaire, bah, et là, Michael Schumacher, on a plein d'images qui nous viennent en tête. Hein, ouais. Damon Hill, s'il nous regarde, Jacques Villeneuve, tout ça. Max Verstappen, et encore, quand je faisais référence à ce qui s'est passé en essai libre avec Lewis Hamilton. Lewis, plutôt en début de carrière, après, une fois qu'il avait la meilleure voiture avec Mercedes en 2014, c'était un peu plus facile d'être cool, d'être calme, même s'il a quand même, globalement, plutôt un pilote assez propre, Lewis Hamilton, on en parlera dans le deuxième débat avec ce qui se passe chez Ferrari. Vettel était quand même assez autoritaire sur la façon de s'imposer aussi pour doubler soit son coéquipier Mark Webber ou d'autres challengers en piste. Antonelli, Jean-Luc, nous habitue à une autre forme d'autorité finalement qui prouve qu'on n'a pas besoin d'être un gros bourrin et de freiner très tard. Je grossis le trait, Jean-Luc, tu m'as bien compris. Sa façon, on n'a pas l'habitude de voir ça.
Mais tout à fait, mais c'est ça qui est séduisant chez ce jeune garçon, hein. C'est ses réactions spontanées, pourvu qu'il reste comme ça, je le dis tout le temps, pourvu qu'il ne soit pas pourri par le système comme d'autres le sont ou l'ont été, pourvu qu'il reste aussi spontané, sa manière de s'offrir pour son anniversaire, hein, finalement, cette victoire en Italie chez lui, j'allais dire pour que le tableau soit complet, il manque plus qu'il le fasse à bord d'une voiture rouge, vous me voyez venir, mais ça devrait arriver tôt ou tard. tard, ça arrivera, je pense. Quand t'as 20 ans, on en est là. On ne peut pas rêver chez Ferrari de succès plus total qu'un un pilote italien à bord d'une Ferrari en train de remporter une victoire à Monza. Bon, Charles a eu le bonheur de le faire dans des circonstances, on le rappelle, douloureuses, effectivement, en 2019. Il a réitéré après cette sortie de piste que tu évoquais également, Arnaud. Bon, tout ça, c'est une histoire et je pense que Antonelli est en train de la construire et je pense qu'il faut garder en mémoire ce que nous vivons là. Parce que c'est vrai qu'avec le recul, on a toujours tendance, et c'est normal, on se rappelle que des bons souvenirs, chacun dans sa vie personnelle, les mauvais, on a tendance à les gommer. Mais il faudra se rappeler de ce moment d'histoire que nous avons vécu avec ce jeune garçon d'à peine 20 ans dans sa deuxième saison qui mène un Grand Prix absolument formidable et sans faute, comme on l'a tous dit. Au contraire, étonnant de maîtrise, malgré, effectivement, son équipier lui a résisté de manière féroce, et c'est normal. Ce sont des pilotes de Formule 1, ce sont des grands champions, mais comme tu le dis, il y a la manière. Pour le moment, il n'y a pas de coup tordu. Je pense que c'est pas dans sa nature, et je pense qu'il n'en commettra pas, et c'est encore plus à son honneur.
Tiens, on écoute la radio de Kimi Antonelli dans le tour de décélération avec son patron Toto Wolff.
Ah, oh my God, oh, it feels like a dream.
Oh mon Dieu, c'était comme un rêve.
Kimi Grand Hero, my Italian, our Italian hero, he so deserved that. It was a fantastic lap. I hated the last one.
Notre héros italien, bravo. Bon, Toto Wolff qui dit j'ai pas aimé les derniers tours, parce qu'évidemment il a vu George Russell et Kimi Antonelli au coude à coude, mais c'est resté très propre et très gentleman entre les deux. Là, pourquoi je disais un tournant, son rythme était une seconde plus vite que celui de George Russell, qui avait, et il faut peut-être aussi quand même ne pas l'oublier, fait une superbe performance avec ses pneus durs qui ont duré près de 50 tours pour George Russell. Il a eu quand même un rythme exceptionnel. Mais Kimi Antonelli, Séraphin, sur ses médiums, il était tout simplement irrésistible. Il a aligné les chronos. Et quand on peut comparer plutôt un Verstappen sur le premier relais qui avait aussi des médiums, il mettait une danse à tout le monde, tout simplement. C'était ahurissant. La Mercedes, ouais. Comment elle fonctionnait ?
Ouais, comment elle fonctionnait, comment lui, il arrivait à la faire fonctionner. Et c'est là où on commence aussi à comprendre, on en parlait depuis le début de la saison, mais c'est cette conduite aussi qu'a Kimi Antonelli finalement. Il est agressif un peu dans sa façon de piloter, et ça semble vraiment aussi faire la différence avec cette Mercedes, puisqu'on voit que même George Russell, il n'arrive jamais à... Il lui manque à ce petit plus que lui, Kimi, arrive à avoir cette voiture. Donc je trouve aussi que c'est une de ses qualités avec cette voiture où il arrive à l'amener. Et tu l'as dit, par rapport à George, il n'y avait pas photo. Et surtout que George, on ne peut rien dire, il a fait un bon week-end. Il partait de la deuxième ligne quand même. Bon, il aurait pu peut-être accrocher la pole, mais il s'est fait doubler par un Français, évidemment. Mais il fait aussi un week-end correct. Il part, il s'est bataillé avec Verstappen. Et ça s'est bien bataillé. Comme tu dis, il a amené ses pneus. Je crois qu'il fait plus de 50 tours avec avec ses pneus durs. Donc, en fait, c'est là où je vois que même George Russell, en faisant un week-end, et on sait que parfois c'était compliqué, mais là, en faisant un week-end avec propre, une bonne exécution, un week-end propre, et bien même dans ce genre de situation, son coéquipier arrive à finir devant lui. Donc, c'est malheureux pour lui. Je trouve ça triste parce que c'est un très, très bon pilote. L'année dernière, il était très régulier et puis c'est plusieurs années qu'il est chez Mercedes. Donc, ça fait mal au cœur de le voir à ce stade, mais il est tombé sur meilleur que lui. Et là, effectivement, on a 66 points d'écart quand même entre les deux. Et on voit que l'écart, c'est encore plus important qu'avant. Donc, ça devient malheureusement... Tu as posé la question, est-ce que c'est un tournant ? Moi, je pense sincèrement que oui, parce que je pense que sur les prochains Grands Prix, même s'il y a des manques de performance ponctuelles de Kimi, je pense qu'il va quand même aller chercher les points régulièrement. Et je trouve qu'il n'y a pas de raison que le titre puisse lui échapper.
Sachant qu'on réfléchit d'ailleurs chez Mercedes, mais comme là on a changé des éléments moteurs chez Antonelli, il faudra le faire à un moment donné chez Russell et trouver la bonne fenêtre. Est-ce que Jean-Luc, c'est un tournant dans le sens où là, Antonelli, il a mis un énorme coup sur le casque à George Russell. Et d'ailleurs, ses stats, qui je trouve est parlante, Kimi Antonelli et George Russell ont aujourd'hui le même nombre de victoires en Formule 1. 7 victoires.
Absolument. Écoute, c'est toute la différence entre un grand pilote, un très bon pilote, allez, je vais même jusqu'à un excellent pilote, c'est George Russell, et un champion. C'est toute la différence. Et puis, tu sais, à travers tout ce que l'on dit là, pour qu'il y ait des vainqueurs, pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des vaincus. Et j'allais dire, plus plus le vaincu est performant, plus le vaincu est excellent, plus l'aura du vainqueur est élevée, est prestigieuse, est étendue. Et c'est ce à quoi nous assistons. Parce que, il l'a dit d'ailleurs après la course, hein, Russell, quand on lui dit « et les espoirs de championnat du monde, t'en es où ?» Bah, il dit « j'y pense plus ». Honnêtement, il dit là maintenant « c'est le plus fort, c'est le meilleur, il a la situation bien en main, moi je vais essayer de faire de mon mieux, c'est-à-dire de remporter des Grands Prix dans la mesure où peut-être, là aussi, Kimi peut ne pas être épargné jusqu'à la fin de la saison par des problèmes mécaniques à nouveau, malgré le fait qu'on lui ait tout changé là pour le moment et que ça va être au tour de Georges. A priori, ce sera à Bakou, hein, si j'ai bien compris, oui. Parce que c'est un circuit où on peut dépasser également. Donc là, on va voir une comparaison, malheureusement, qui risque d'être dure, j'anticipe, hein, mais Georges va partir derrière, du fond de grille, peut-être des stands, et on va voir où il peut remonter. Alors, c'est pas le même circuit, c'est pas les mêmes circonstances. Est-ce qu'il va être capable de se battre pour la victoire au bout de 18 tours? Écoutez, moi, j'ai mon opinion là-dessus, mais ça, je peux être détrompé. Et puis, il peut y avoir des événements, il peut y avoir des cartons rouges, il peut y avoir des safety cars ou des virtuels safety cars qui peuvent lui permettre. Et c'est vrai que ça a aidé aussi Antonelli, comme Serafin a bien expliqué, la 12e position qu'il avait déjà atteint au drapeau rouge et la 6e rapidement. Donc, bien sûr qu'il faut être aidé. Mais la chance, ça se force, hein, toujours pareil. La chance, ça se provoque. Il faut être là pour la récolter. Le nombre de victoires que les plus grands pilotes ont remporté parce que quelqu'un devant ou bien a eu une casse mécanique ou bien a commis une petite erreur ou bien s'est accroché, il est incommensurable. Alors là, on va pas se lancer là-dedans parce qu'il y en a des dizaines voire des centaines, mais il faut être là, il faut être aux bons endroits pour récupérer justement ces victoires. Et là, on peut dire que celle-là, en tout cas pour Kimi, il a été la chercher à la pointe de l'épée, véritablement.
Est-ce que aujourd'hui, Serafin, tu penses que, et Jean-Luc parlait des ennuis mécaniques, mais on sent qu'aujourd'hui, toutes les forces de Mercedes sont tournées vers Kimi Antonelli, à la fois la voiture, à la fois la stratégie, parce que le fait de ne pas arrêter George Russell, il en a un petit peu parlé, il était sur des pneus durs, mais si on faisait un double arrêt chez Mercedes, probablement on faisait encore P1 et P2 au moment de cette virtuelle safety car. On rappelle, c'est 15 secondes seulement de perdu aux arrêts au stand. Et Kimi Antonelli est revenu à 5 tours de la fin sur George Russell avec ses 15 secondes. Et on voit bien qu'on a interrogé George Russell, est-ce qu'on aurait dû t'arrêter? Et il a peut-être aussi compris et baissé un peu les armes et qu'aujourd'hui tout est fait pour prioriser Kimi Antonelli.
Prioriser, je dirais peut-être pas là, parce que actuellement les deux sont quand même au très haut niveau. On a quand même les deux pilotes de l'écurie qui sont en tête du championnat, donc on va quand même essayer de chercher tout ce qu'on peut au maximum. Mais c'est plus des situations comme on a pu le vivre au week-end précédent, où à Zandvoort on a essayé plutôt d'optimiser sa course en disant à Georges, laisse le passer. Voilà, ce genre de situation. Là, on sait qu'il y a eu des consignes. C'est qu'on sait qu'on évite de se battre de manière trop agressive. Et c'est ce qui s'est passé. On sait que ça a été chaud quand même entre les deux. Mais on sait qu'on ne va pas s'accrocher parce qu'on pourrait tout perdre et perdre tous les points. Donc je ne dirais pas encore que tout est pour lui. Mais c'est plus que juste toutes les pailles sont alignées de son côté. Et comme a dit Jean-Luc, il y a eu quand même des problèmes mécaniques pour les deux pilotes, sur notamment le début de saison. Là, ça va un peu mieux, mais avec le moteur Mercedes, c'est arrivé beaucoup de fois et je suis quasiment certain que ça va encore arriver avant la fin de la saison. Donc il y aura encore certainement des courses avec des zéros d'un ou par des pilotes. Mais je ne pense pas qu'il faut non plus penser que chez Mercedes, ça y est, Kimi est en train de mener et du coup, c'est une raison pour délaisser Georges. Je ne pense pas parce qu'on joue ensemble le titre.
Donc. Oui, mais Serafin, et là je te lance Jean-Luc, Kimi, c'est le chouchou absolu de Toto Wolff.
Ah bah oui, écoute, j'utilise cette expression, c'est son fils adoptif, hein. On voit bien les liens qu'il y a entre eux, c'est assez beau à voir d'ailleurs, faut pas toujours être cynique et toujours démonter tout, mais c'est évident qu'il y a un côté affectif, je dirais, on peut très bien le comprendre, parce qu'encore une fois, ce gamin est extrêmement attachant. Moi je vais dire même la famille, hein, l'attitude du papa, de la maman, de sa sœur, hein, je pense, qui était là aussi, oui. Tout ça ça. Et c'est touchant, quoi. Ce sont des gens normaux, tu vois, vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire, ce sont des gens normaux qui vivent un rêve éveillé. Là, on a vu la fierté du papa. Enfin, c'était au-delà des larmes de voir son fils, lui qui a piloté également, hein, qui est quelqu'un du sport mécanique, qui est un vrai passionné. Voir son fils sur le podium de Monza, tout en haut, écouter l'hymne italien au milieu de dizaines de milliers de tifosi qui sont habillés en rouge, certes, mais qui savent que Kimi Antonelli est des leurs. Lui aussi, c'est un tifosi, c'est un passionné. Tifosi, ça veut dire passionné. C'est absolument fabuleux. C'est, encore une fois, c'est un rêve éveillé. C'est fantastique. Et je pense que, pourvu que ça dure jusqu'au terme de la saison, parce que, comme l'a dit également Georges, Kimi le mérite largement, ce titre.
Deux questions qui vont nécessiter deux réponses simples, Jean-Luc et Séraphin. Est-ce que Kimi Antonelli sera champion du monde 2026 ?
Oui.
Oui.
Est-ce que Kimi Antonelli sera un jour un pilote Ferrari ?
Oui.
Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, sa carrière, non, pas tout de suite, mais...
pas tout de suite.
Mais vu ce qu'il fait à son âge, on ne voit pas pourquoi sa carrière, elle ne durera pas longtemps.
Ce sera peut-être lui l'élu qui va apporter un titre à Ferrari.
Mais c'est impossible qu'il ait d'écarter cette voie-là. Bah, écoute, oui. Je pense que tout le monde y pense. Tout le monde y pense.
Déjà, tout le monde y pense déjà, c'est fou.
Mais oui, mais tout le monde attendait un pilote italien de premier plan, hein, bien évidemment. On attendait qu'il revienne, parce qu'il y a un moment, il n'y en a plus sur la grille quand même. C'était terrible. Et là, c'est passé fin, hein, à plusieurs reprises. Je pense à Michele Alboreto. J'ai une bonne pensée pour lui au milieu des années 80, hein, en 85 de mémoire. Il était performant, excellent pilote, et puis les planètes ne se sont pas alignées. La Ferrari n'était pas au niveau où elle devait. Les McLaren dominaient. Enfin, c'est d'ailleurs, on a renommé, on dit toujours évidemment la Parabolica. Elle s'appelle la Parabolica Michele Alboreto. Hein. Donc, voilà, je pense que là aussi, les Italiens, ils croisent les doigts. Alors, pour le moment, la Scuderia, c'est un peu plus difficile. Bon, là aussi, évidemment, tout prend des allures de catastrophe. Et je sais, Arnaud, que tu vas nous y emmener rapidement.
Mais bon, on va y aller, oui.
Mais, bah, les Italiens ont de quoi largement se réchauffer le cœur et la passion, et puis chez eux ça retombe jamais. Ce parc de Monza à 20 km d'or de Milan, si vous avez jamais vécu un Grand Prix là-bas, il faut absolument le faire. C'est une expérience unique dans sa vie, je pèse mes mots.
Et puisqu'on va clore ce chapitre Antonelli, on parle de Ferrari. Jingle Ferrari.
Is there a leakage?
A leakage of what?
I have the seat full of water, like full of water.
Must be the water.
Le pauvre Charles Leclerc, cette séquence où il a une fuite, il dit « j'ai une fuite dans mon siège, ça doit être de l'eau ». Et son ingénieur lui répond « ça doit être de l'eau ». Voilà. Évidemment, petit jingle Ferrari, puisque non pas ils ont coulé, mais ça fuite partout. Leclerc sort sa monoplace dans la parabolique après avoir tassé son coéquipier au départ. Une séance de qualification un peu décevante, on attendait plus, on attendait au moins d'en voir une en première ligne, mais il y a eu Pierre Gasly, on va en parler. Hamilton, de plus en plus frustré par le manque de consignes, et finalement, de son point de vue, peut-être une forme de laxisme vis-à-vis du comportement en course de Charles Leclerc et cette déclaration. Lorsque j'étais chez Mercedes, nous avions des règles écrites d'engagement. Ici, il n'y a aucune règle. Jean-Luc, est-ce que le point de non-retour est-il atteint entre ces deux pilotes et la gestion de ces deux pilotes ?
Alors là, c'est un débat tellement complexe et tellement complet. On va essayer, je dis bien essayer, moi le premier, d'écarter la passion, le parti pris, la sympathie et tout ça pour essayer de raisonner objectivement. Alors, effectivement, là, moi j'ai été surpris, malgré tout ce qui s'est passé, hein, par les attaques tout à fait directes de Lewis Hamilton à l'égard de Fred Vasseur, parce qu'il faut être clair.
Oui,
là,
il l'a visé.
Critique... Elle le vise directement. Or, jusque-là, ils se connaissent très bien. Vous savez que Hamilton avait piloté pour l'écurie de Fred Vasseur dans le passé. Il a même décroché des titres. Hein. Donc, il y avait une complicité entre les deux hommes. Et là, envoyer vraiment, c'est plus des pavés, là, c'est envoyer des bombes atomiques dans le jardin de Fred en disant « il n'y a aucune gestion chez Ferrari, c'est n'importe quoi ». Ça aurait dû être fait depuis de nombreuses semaines, évidemment, et en plaidant pour son cas, puisque bah, c'est lui qui est devant, devant Leclerc, évidemment, au classement pour le moment, etc. Je trouve ça très dur. Je pense que ça va avoir des conséquences, hein, parce qu'effectivement, il va y avoir une réunion. Moi, j'ai toujours dit depuis le début que, bien sûr, que Fred Vasseur était ravi de récupérer Lewis Hamilton chez Ferrari, mais j'ai toujours pensé que les tractations s'étaient effectuées encore au-dessus. Eh bien là, j'en ai maintenant la confirmation. C'est-à-dire que là, il ne pourrait pas, Hamilton, taper sur la tête de Fred Vasseur comme il le fait là, de cette manière-là, à ce moment-là, s'il lui devait son arrivée chez Ferrari. Alors encore une fois, Fred Vasseur était ravi de récupérer un pilote qu'il admire, qu'il apprécie, avec lequel il avait collaboré, mais bon. Alors maintenant, on en vient au fait. Est-ce que Ferrari sombre ? Ben, on a bien compris qu'entre les deux pilotes, et moi je me suis reporté aussi au résultat de Leclerc face à ses adversaires depuis qu'il est arrivé chez Ferrari, depuis 2019. Bah, assez rapidement, en gros depuis la moitié de la saison 2019, il avait pris le pas sur Vettel à l'époque. Et c'est vrai qu'après, il a été toujours un peu privilégié. C'était lui le fils de famille, c'était lui le garçon qu'on privilégiait, même si, et il ne faut pas l'écarter, hein, Vettel s'est un peu rebiffé à un moment. Et puis après, Sainz, lors de deux saisons, s'est pas mal débrouillé du tout. Il a remporté sa première victoire. Bref, il a poussé Charles dans ses derniers retranchements, mais Charles avait toujours un petit peu ce baquet privilégié, on va dire ça comme ça. Lewis Hamilton, je suis un peu long, je suis désolé, mais il faut le remettre dans le contexte parce que je vais donner mon avis à la fin, bien sûr. Lewis Hamilton arrive l'an dernier et là, bah, manifestement, ça ne va pas. Les règlements techniques, il faut toujours en revenir à ça. Les monoplaces dont il dispose, ça ne lui convient pas. Bref, il est ultra dominé par Leclerc et Leclerc à la barre et donc ça continue normalement. Et puis, en ce début d'année, on comprend que là, il y a un changement notable. Lewis Hamilton a une monoplace qui lui convient très bien. Il commence à réaliser des résultats. Charles Leclerc a beaucoup plus de mal. Ensuite, bah, chacun a sa victoire, on s'équilibre. Et on a compris qu'on avait, on va dire, un accord tacite de circonstances, mais qu'au fond, bah, ça allait être difficile. Et puis, effectivement, ça se tend. On le comprend déjà lors du dernier Grand Prix. On le comprend en Hollande, hein, précisément.
À Zandvoort, oui.
Voilà, à Zandvoort, là, on comprend très bien qu'il se passe quelque chose et que, bah oui, on réclame. Alors, c'est normal, chaque pilote aussi plaide pour son cas. Et à tel moment de la course, bah, Lewis était plus rapide que Charles, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a préféré arrêter Charles, hein. On s'en rappelle. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la décision de lui dire, bon, ça y est, t'es deuxième pilote, puisque Hamilton est mieux placé au championnat pour lutter contre Antonelli et contre les Mercedes. C'est lui qu'on va privilégier. Et je l'ai dit à l'époque, hein, j'ai dit, bah oui, on trouve un biais, on trouve un moyen, on l'arrête. Bon, là, on voit lors des qualifs que c'est un peu chaotique et que les deux pilotes ne travaillent pas ensemble. Alors que on a vu Antonelli donner le taux, donner l'aspiration à Russell à un moment pour lui permettre de faire mieux. On a compris qu'on avait du mal à imposer des conditions, à imposer une règle. Et puis, ça, on arrive à ce premier freinage. Alors là, je ne vais pas être trop long maintenant. Je vais laisser Séraphin donner son avis également. Mais on va arriver à ce premier virage où là, tout est symptomatique, tout est clair et tout éclate finalement.
Et oui, parce que puisque Charles Leclerc, alors il y a débat. Séraphin, est-ce qu'il tasse ou pas Hamilton ? Hamilton dit « je suis en tête à l'apex ».
Quand on regarde quand même après en détail le replay, c'est vrai qu'on a l'impression quand même que Charles ouvre vachement son volant.
Il va un peu à droite. Hein.
Et on se dit c'est un premier tour, il y a gros à jouer. Et c'est vrai que je mettrais plutôt la faute quand même sur Charles parce qu'effectivement, sur ce genre de moment, en début de course, on n'a pas trop à faire ça sur son coéquipier. Et on voit rapidement que Lewis perd énormément de positions. Après, c'est vrai que je rejoins ce qu'a dit Jean-Luc au tout début sur les déclarations quand même en fin de course de Lewis, parce que le fait que maintenant on s'emprègne finalement au niveau supérieur et aux gens qui gèrent chez Ferrari, c'est très négatif parce qu'on vient de passer un week-end mauvais, entre guillemets. Hein. Tu l'as dit, on partait quatrième, cinquième, malgré quand même qu'on a gagné une position en raison de la pénalité quand même hein, de Piastri qui fait passer les Ferrari 4e et 5e. On est à 2 dixièmes, je crois, de la pole position de Pierre Gasly. Et surtout qu'il y avait énormément d'attentes. On sait qu'on a apporté un nouveau moteur avec cette partie à duo. Donc c'était difficile de donner, et eux ne voulaient pas forcément donner de chiffres, mais on savait qu'on allait essayer de récupérer un peu de vitesse de pointe en ligne droite. Et c'est ce que Ferrari avait besoin. On avait aussi on avait réglé la voiture aussi, adapter cette voiture par rapport à ce Grand Prix. Donc on est à domicile, il y a beaucoup à jouer. Et voilà, faire un week-end comme ça qui est très malheureux, avec effectivement aussi cet accident déplorable de Charles Leclerc, qui est, je pense, pas uniquement d'ailleurs de sa faute. Je pense que
c'est la voiture.
Et effectivement, lui, il l'a dit quand même, c'est que on n'a pas encore les éléments exacts, donc on va pas trop se projeter, mais il semble qu'il y ait eu ce déploiement d'énergie électrique. Il s'en est beaucoup plein apparemment au début du tour, et ça a effectivement certainement joué dans son accident.
N'oublions jamais que ce sont des propulsions. Le filet de gaz, voilà, c'est pas une traction, donc c'est pas nos voitures de tous les jours.
Et je pense qu'on rajoutait du coup à la fin de cette course, avec cette déclaration de Lewis Hamilton, eh ben, pour la suite de la saison, c'est que du négatif. Et là où Ferrari, en début de saison, avait vraiment les moyens, je pense vraiment, de jouer avec Mercedes et où ça se rapprochait. On a eu cette période Barcelone, Silverstone avec ces deux victoires. Là, on est en train de replonger depuis quelques courses et je vois presque McLaren, en fait, à l'inverse, s'en sortir beaucoup mieux.
On est sur les victoires en course. Hamilton bat son coéquipier à 8 reprises cette saison et 5 pour Charles Leclerc, même si, et c'est peut-être là pourquoi Lewis Hamilton sort second comme ça, Jean-Luc, il sent que, avec des consignes un peu plus claires en course, et notamment à Zandvoort, Lewis Hamilton, il se dit, parce qu'il est aujourd'hui à 10 points derrière George Russell, il se dit, normalement, on doit avoir une Ferrari à la deuxième place du classement des pilotes. Ils ont clairement ce potentiel-là, même avec cette voiture qui est évidemment un temps en dessous de la Mercedes, Jean-Luc. Mais Hamilton, lui, pour lui, et d'ailleurs, il a eu une petite phrase comme ça, en disant presque c'est trop tard, il y avait moyen d'être deuxième au classement des pilotes et qu'il se dit, de toute façon, avec ce qui se passe chez Ferrari, la façon dont on est managé, on n'y arrivera pas. Il est là un peu son pourquoi il s'agace, pourquoi il s'énerve, pourquoi il dit ça.
Mais il le joue très bien, il est très malin, il est très intelligent, il sait exactement comment communiquer. Alors j'en reviens, si tu veux bien, à la phase de la friction du premier. L'erreur pour moi de Charles, c'est de ne pas avoir fermé la porte totalement à Lewis. Je pense qu'il n'a pas cru qu'il allait vraiment l'attaquer à ce premier freinage-là. Donc il n'a pas totalement fermé la porte, je parle de l'intérieur au freinage, on parle bien du premier droite. Auquel cas, Lewis n'aurait pas pu s'immiscer. Il lui a laissé la place et Lewis y a été et c'est tout à fait normal. Après, ils sont côte à côte. Alors, là aussi, moi, je pose la question différemment. Bien sûr que là, c'est trop difficile, là, de l'extérieur, de dire c'est de la faute à Charles plus que de la faute de Lewis. Mais si ça n'avait pas été Lewis, si ça avait été une McLaren à cet endroit-là, est-ce qu'il n'était pas normal que Charles défende sa position de cette manière-là? La réponse est oui, évidemment. On n'allait pas faciliter le passage. Alors, ce que vous êtes en train de dire, ce que Séraphin esquissait, et je le comprends, et ce que Lewis dit aussi, c'est « Oui, mais moi, j'étais son équipier. Il n'aurait pas dû être aussi dur à mon égard. » Oui, là, je suis obligé de répondre oui également, bien sûr, que normalement, son équipier, on ne le traite pas tout à fait comme un adversaire. En l'occurrence, Charles l'a traité comme un autre adversaire. Et encore une fois, il aurait fait ça au détriment d'un pilote McLaren ou Mercedes. On dirait « Ah bah oui, c'est normal, il ne pouvait pas passer à cet endroit-là. » Parce que Lewis n'est pas un enfant de cœur non plus. Il sait très bien que s'il n'a pas fait la différence et s'il est juste à la hauteur où il y a 2 cm au point de corde, peu importe, il y a de la place que pour une voiture dans le gauche après le S. Donc la voiture, c'est celui qui est à l'intérieur. Je suis désolé de le dire, mais c'est une évidence. Où avez-vous vu que le pilote à l'intérieur, à cet endroit-là, va céder la bonne ligne à le pilote à l'extérieur? Ça n'existe pas. Enfin, honnêtement, moi je veux bien qu'on me montre un autre exemple. Alors, encore une fois, je ne défends pas l'un au détriment de l'autre. C'est regrettable, c'est dommage. Et peut-être après que l'accident de Charles est aussi en partie, moi je vais parler de psychologie, il y a bien sûr la mécanique, il y a le fait qu'il est attaqué et j'ai cru dans un premier temps peut-être que la moustache avant gauche de la McLaren de Piastri était venue lécher le pneu arrière droit de la Ferrari et qu'il avait pu l'endommager un petit peu et que ceci aurait occasionné effectivement, non c'est pas ça, c'est que Charles s'est laissé un petit peu embarquer à l'extérieur lui aussi à cause de ça peut-être, à l'entrée il était moins bien positionné qu'il l'aurait dû, donc il a été un petit peu à l'extérieur sur la partie poussiéreuse, sur la ligne blanche. Et puis là, il l'a perdu, comme tu l'évoquais, comme vous l'évoquiez tous les deux. Ces machines sont très difficiles à mener. Et dès qu'on touche effectivement à la pédale ou plutôt au bouton pour envoyer la puissance électrique, ça arrive d'un coup. Il y a eu le snap et à 240, 250 km/h, on ne peut rien faire, même des pilotes de ce talent-là. Et donc, c'est la... Alors, je pose aussi une autre question. Vous allez voir que c'est délicat. Si Charles n'était pas sorti, si Charles était resté à l'attaque, si Charles avait terminé sur le podium, est-ce qu'on aurait ce débat aujourd'hui? Ensuite, ans qu'il soit parvenu à devancer Verstappen, ce qui était possible, hein, on est d'accord. Il aurait pu finir troisième, monter sur le podium à Monza avec une Ferrari. Alors, c'était peut-être pas ce qu'on attendait, mais c'était une compensation. Est-ce qu'on aurait ce débat dans ces termes-là aujourd'hui ? C'est moi qui pose la question.
C'est sûr, tout est, et puis c'est Ferrari, tout est sujet à interprétation de l'interprétation de l'interprétation de l'interprétation. Pour terminer ce débat, Séraphin, est-ce qu'on a atteint un point de non-retour, ou comme on l'a dit aussi la semaine dernière, on est aussi face à deux pilotes expérimentés et intelligents, et que les déclats du week-end sont souvent aussi désamorcés dans les jours qui y suivent?
Bah moi, je pense quand même que c'est deux pilotes très intelligents, et qu'il y a eu des situations, et que je pense qu'ils sont assez, assez grands, entre guillemets, c'est une façon de... Ils sont assez intelligents et matures, justement, pour réussir pour l'écurie, pour voilà, l'intérêt commun, en fait, finalement, de cette écurie, à redescendre et à essayer de trouver des solutions, où, effectivement, je pense qu'ils vont pas... on va pas partir d'une situation... compliqué entre les deux. Oui, c'est deux pilotes qui ont des gros égos, et voilà, on a un duo, un gros duo, mais je pense qu'ils vont quand même réussir à trouver des solutions pour que ça aille mieux sur les prochains Grands Prix. Moi, je m'en souviens aussi, on avait parlé en début d'année quand même, il y avait eu ces belles batailles aussi entre ces deux pilotes. On se souvient de Suzuka, de la Chine aussi, hein, ces Ferrari qui étaient très compétitives, qui se battaient à armes égales et de manière très, très juste avec ces voitures, et où ça se passait bien, effectivement, et on n'était pas dans des situations comme ça. Donc, ils vont réussir à retrouver quand même une situation bonne chez Ferrari.
Jean-Luc, en un mot, tu penses que ça va un peu se dégonfler, ou ça va peut-être continuer à s'envenimer? En un mot.
Je pense que ça va peut-être pas se dégonfler, mais se stabiliser. Là, je pense que de toute manière, encore une fois, je connais Fred Vasseur, il va taper sur la table, il va dire, bon, écoute, il va dire à Charles, oui, là, ce que tu as fait à ton équipier, c'est pas bien. Ça aurait pas dû, il l'a dit déjà, hein, ça aurait pas dû se passer comme ça dans le premier virage. Là, tu l'as fait perdre toutes ses chances. Un adversaire, oui, pour rebondir sur ce que je disais il y a un instant, un équipier, non, on fait pas comme ça. Donc ça, c'est pas bien. Après, t'es sorti. Bon, malgré tout, même si on peut jamais exclure totalement la responsabilité, malgré tout, d'un pilote. Hein. Et là, je n'attaque pas durement Charles, mais bon, c'est lui qui est sorti, voilà. Il fallait pas sortir, pas à Monza, pas quand on est 3-4e et qu'on se bat pour le podium. Bon, voilà. Et puis après, dire à Hamilton, écoute, si tu as des choses à me dire, tu me le dis en face, d'accord, dans le motorhome, tu vas pas te répandre dans la presse en disant qu'il n'y a aucune direction chez Ferrari, qu'il n'y a pas de consigne, que c'est n'importe quoi. Et surtout, ce qui est pervers, de mon point de vue, c'est d'évoquer Mercedes. Non, pas lui. Alors qu'on a connu ce qu'on a connu chez Mercedes en 2016, quand il a eu un adversaire à son niveau. Oui. Nico Rosberg, allez, comme ça, c'était pas pareil chez Mercedes. Non, ça c'est indigne de l'homme qu'il est et du septuple champion du monde. Ça, je pèse mes mots, c'est indigne. Il n'a pas utilisé cet argument-là. Maintenant, qu'il veuille stabiliser la situation et en gros, qu'il demande à Vasseur en disant, écoute, moi, je suis beaucoup moins loin que Charles au championnat du monde. À partir de maintenant, je demande officiellement à ce que je sois privilégié. Ça, c'est logique. C'est complètement logique et c'est peut-être légitime et c'est peut-être qui va se passer, d'ailleurs, pour être clair. Donc, je pense que ça va, oui, ça va se dégonfler. Puis, on a quand même encore 10 Grands Prix, hein, dans lesquels on doit participer, on doit donner le meilleur pour Ferrari. Et comme ils l'ont tous dit à un moment ou à un autre, on le doit aux équipes, aux centaines de personnes, voire milliers qui se battent, hein, Maranello et ailleurs, et on le doit aux tifosi.
Et puisque tu parles des 10 Grands Prix, sachez que ça se confirme de plus en plus que le dernier Grand Prix n'aura pas lieu à Abu Dhabi, mais à Imola, qui accrédite évidemment la thèse d'un titre de Kimi Antonelli à la maison.
Et on va l'appeler le Grand Prix d'Abu Dhabi, peut-être.
C'est
non
ça.
Peut-être.
C'est sûrement.
Mais Séraphin me disait, Imola en décembre, ça risque d'être drôle, hein, les températures.
Ah oui. Allez. Et est-ce qu'il y a des pneus neige, des pneus à clous chez
Pirelli? Allez, passons à la très belle nouvelle du week-end, c'est cette pole position de Pierre Gasly.
Et puis Pierre Gasly. Wow. Pierre Gasly. Pole position per il milanese.
Et le commentaire de la Sky pour Pierre Gasly, le Milanais. Bah oui, avec ses années chez Racing Bulls notamment.
AlphaTauri,
il habite là-bas, à Milan, qui est une ville absolument magnifique. Je vous la conseille. Ah oui. Parfois, les gens critiquent. Moi, j'adore Milan, cette région de Lombardie. Vous avez Côme à côté. Bah bref. Mais bon, les beaux commentaires, on a vibré, évidemment, Jean-Luc, toi aussi sur l'antenne, et quand autant aussi la télé italienne pour Pierre Gasly, qui a évidemment une cote de sympathique auprès du public italien, absolument majestueux. On attendait ça depuis Jean Alesi 97. Tiens, c'était aussi à Monza.
Et oui, effectivement. Et puis, bien sûr, on l'a rappelé, c'est là que Pierre avait remporté, pour le moment, sa seule et unique victoire. Et j'espère qu'il y en aura d'autres.
Il y a 6 ans.
Voilà, c'était le 6 septembre, un anniversaire, 6 septembre 2020, donc 6 ans auparavant. Écoute, c'est une pole venue de nulle part. C'est incroyable. Non, mais c'est formidablement bien joué de la part de l'équipe. Et encore une fois, dès qu'on les a laissés sortir en tout fond, sincèrement, et on peut reprendre les commentaires, je l'ai dit, j'ai dit ça, c'est bien joué. Les McLaren sont sortis les premiers parce que personne ne voulait y aller, vous vous rappelez. Puis Piastri s'est loupé dans sa première tentative, ouais. Donc du coup, ça n'a pas aidé Norris. Bon, ça, c'est un. Après, il y avait effectivement Verstappen, il y avait les Ferrari et les deux Alpines qui étaient bien lotis là où il fallait dans le sillage des Ferrari. C'est extraordinairement bien joué de la part d'Alpine et surtout de la part de Pierre, parce que celui qui exécute les manœuvres, quand même, c'est le pilote qui est au volant. Et là, il s'est montré fantastique. Il est au-delà du temps légitime, du temps imparti. Eh bien, quand il est passé sous le drapeau, pratiquement le dernier, je crois que Colapinto était encore derrière lui, eh bien, il décroche la pole pour 60 millième. C'est absolument génial. Comme tu l'évoquais, ça fait 29 ans qu'on n'avait pas vécu ça avec Jeannot, avec une Benetton et à Monza. Et avant, c'était avec une Ferrari à Monza également, pour Jean qui a deux pôles. Donc, ça a réveillé des souvenir formidable, ça a confirmé ce que nous n'arrêtons pas de dire, c'est-à-dire que Pierre Gasly vaut bien mieux que la voiture qu'il a. Si on lui donne une bonne voiture, il fait des résultats et il décroche des pôles, il gagne des grands prix à la 191e tentative, et c'était le deuxième pilote, rendez-vous compte, de la grille de Formule 1 en termes de tentatives. Il n'y a que Pérez qui avait dû attendre 219 grands prix. Ça fait 10e pilote français à décrocher une pole, 80e pilote dans l'histoire, et la première pole pour Alpine. Ça faisait beaucoup d'émotions d'un coup. Ah, on a eu presque les larmes aux yeux.
Ah oui, clairement. À un moment, puis il a rendu chef tout le monde. Toto Wolff était furieux de voir Gasly devant et pas Russell. Et ça montre évidemment, on sait à quel point Pierre a évidemment beaucoup de talent, qui a eu ce rendez-vous manqué chez Red Bull, mais ce ne fut pas le seul. Et là, il confirme avec cette Alpine qui est un petit peu rentrée dans le rang, mais au final, qui est une voiture pour faire des top 10,
Bien sûr, et quand on voit d'ailleurs son coéquipier, on peut souligner aussi Franco Colapinto, qui partait 8e et qui malheureusement a commis une erreur, il termine dans les graviers et qui remonte quand même dans les points. Donc ça veut dire que s'il avait été présent pendant toute la course, je pense qu'il pouvait faire vraiment une bonne course également. Donc oui, bien sûr que cette Alpine, elle a retrouvé en tout cas un peu de couleur. On l'a vu quand même que quand on regarde après coup, évidemment c'est toujours facile, mais cette qualification déjà en Q1, Pierre signait le meilleur temps de cette première séance, et en Q2 il était aussi plutôt bien placé. Donc on a vu qu'il était à l'aise au fur et à mesure de la séance, et après voilà, c'est une optimisation entre les réglages, entre la monoplace. Jean-Luc l'a dit aussi au niveau de l'équipe, de la préparation, de la sortie des pilotes, et puis évidemment le pilote qui fait la différence. Et voilà, même moi qui n'ai pas connu justement la pole position à l'époque de Jean Alesi, de vivre une pole position d'un Français, et quel bonheur, quelle joie. Personne, on a vu la feuille des temps et boum, on s'est dit mais incroyable de qu'il puisse sortir ça. Et d'ailleurs quand même aussi, c'est la Q3 la plus serrée de l'histoire. Il y a une demi-seconde entre le premier et le dixième, et c'est quand même aussi à noter pour cette première année de réglementation, il faut quand même le rappeler, d'avoir des écarts aussi faibles. Je trouve ça quand même assez incroyable sur cette première année de réglementation, d'avoir des écarts aussi serrés. Donc vraiment, il est allé chercher et elle est méritée.
Tiens, ça va vous faire sourire. Donc le temps de Pierre, 1:21.786. Jean Alesi avait fait la pole en 1:22.9, qui équivaut au temps de Liam Lawson, qui a fait P14. Ouais. Bon, l'année dernière, la pole était en 1:18.8.
Voilà,
donner
faut
un petit peu
aussi.
Les écarts, oui, voilà.
C'est quand même, c'est pas pareil non plus.
Bon. Mais c'est vrai que Pierre confirme aussi qu'on vit non pas un âge d'or, hein, parce que si on se souvient, Alain Prost juste avant, Arnoux, toutes ces légendes, Jean-Luc, on vit pas peut-être notre âge d'or de la France en Formule 1. On est loin encore d'un triplé français sur un podium, on en parlait la semaine dernière, mais on vit quand même une belle époque, même si pour Esteban c'est un peu plus compliqué chez As, mais Isaac à Red Bull, Pierre voilà encore chez Alpine, on a quand même trois beaux pilotes français, et on va un peu se répéter, mais c'est important aussi de le notifier, ça n'a pas toujours été comme ça, hein, ces dernières années.
Mais bien sûr, et c'est ça, il faut effectivement ne pas faire de bashing sans arrêt. Bon, encore une fois, le règlement, c'est autre chose. Vous me permettrez, encore une fois, on ne va pas repartir là-dessus, parce que moi, j'en ai marre aussi de parler de ça. Les pilotes en parlent sans arrêt, donc bon, ça, c'est une chose. Mais eux, ils font avec. Eux, ils ont le talent. Eux, ils ont le courage. Eux, ils ont l'engagement. Et effectivement, puisque ta question porte sur les pilotes français, mais bien sûr, on ne peut que se réjouir d'avoir trois pilotes français déjà sur la grille. Il n'y a pas beaucoup de nations aujourd'hui qui ont trois pilotes. Hein, à part les Britanniques, ouais. Évidemment, mais il n'y a pas beaucoup de pilotes. Et puis, tu parlais d'âge d'or, moi j'en ai connu beaucoup, j'ai eu cette chance extraordinaire. Mais on remonte donc à Jean Alési, évidemment, on remonte à Olivier Panis quand même. La victoire de Monaco, c'était quand même quelque chose en 96, et je la commentais en direct. Je peux vous dire que là aussi, j'en avais des très beaux lots dans la voix. J'ai fini le Grand Prix absolument épuisé, surtout que c'était un Grand Prix de folie avec beaucoup de rebondissements.
Tes larmes avaient humidifié la piste.
Voilà, il était parti 14e quand même. Et c'est pour ça que j'aime tellement les Grands Prix sous la pluie. Vous souvenez, à chaque fois, je souhaite la pluie. Parce que ça brouille les cartes. Hein. L'avantage technique, etc., qu'ont certains pilotes, eh bien, ils le perdent et on retrouve le talent du pilote.
Bien
alors,
sûr,
avant... Avant les périodes que nous venons d'évoquer, notamment celle de Jean Alési, on parle de Paul, il y avait Alain Prost qui avait écrasé évidemment la discipline dans le bon sens pour les Français. C'était de 84 à 93 quand même, une énorme décennie avec les McLaren et Williams. Et puis juste avant, je ne peux pas ne pas citer mon ami, mon frère Patrick Tambay, toujours avec beaucoup d'émotion, qui lui aussi avait signé des pôles hein, en France, en Afrique du Sud, en Autriche, en Allemagne, vous me permettrez de le rappeler, René Arnoux. Bien sûr, qui est toujours avec nous, heureusement, qui lui aussi a réalisé des pôles. Et puis en remontant encore un peu, Didier Pironi, Jacques Lafitte, il y en a eu, Jean-Pierre Jarier, il y en a eu des Français qui ont signé des pôles. Et j'en oublie, puisque je ne vais pas oublier quand même le premier, c'était Patrick Depailler. Patrick Depailler en 74 en Suède. Et oui, pour ceux qui ont connu ça, je peux vous dire que c'était également quelque chose. Donc, ça veut dire une nouvelle fois que, heureusement, on a d'excellents pilotes dans ce pays. L'écurie, là, encore une fois, moi, je la qualifie maintenant, évidemment, de totalement britannique, mais peu importe. Elle s'appelle Alpine, elle s'appellerait Schtroumpf ou Soda, machin, ça n'a aucune importance. En tout cas, il faut une machine pour triompher. Oui, c'est une machine qui est entièrement fabriquée à Enstone. Maintenant, puisqu'on a viré le moteur français, hein, là aussi, je me permets de le rappeler, ce qui restait de français, ce qui reste pour le moment de français, c'est, si vous voulez, entre le volant et le moteur, si vous voyez ce que je veux dire. Ça s'appelle un pilote.
Mais allez, Jean-Luc, on est très bavard, on passe à ta chronique, ton coup de cœur.
Oh yes, ladies and gentlemen,
il faut arrêter la Formule 1 parce que ça ne sert à rien.
Après, il s'est lancé dans une remontée vraiment à couteau ouvert.
Les moteurs de trottinette ou tondeuse à gazon.
Mais écoute, s'il n'est pas gonflé comme une pendule. Et la queue du Mickey au rétroviseur aussi, t'es d'accord?
Bon Jean-Luc, tu voulais tirer ton coup de chapeau à cette terre de Formule 1, Monza, les tifosi, le circuit, ce parfum inégalable dans cette F1 qu'on va dire de plus en plus aseptisée dans les circuits. Et je dis pas ça parce que le circuit de Madrid arrive.
Exactement, mon Arnaud. Là, tu as tout résumé. Je mets tout dans le même panier parce qu'encore une fois, un week-end comme celui-là, c'est un véritable bonheur. J'allais dire, c'est ça qui justifie la passion que nous avons tous pour la Formule 1 et pour les sports mécaniques. On sent que ça vibre. On sent que par tous les pores de la peau, on sent que ces Italiens sont enthousiastes. Et là, effectivement, oui, la Scuderia a eu un week-end difficile. Oui, la Scuderia n'est pas dominatrice. Mais ils sont là. Ils sont toujours là. Et puis, ils ont la chance maintenant d'avoir un pilote qui peut être champion du monde. Donc la passion, elle est là. Le cadre est également absolument grandiose hein, dans ce parc de Monza, ce parc naturel où là aussi, il y a un moment, je vais envoyer une pierre dans le jardin, c'est le cas de le dire, les écolos ont bien essayé de le faire interdire ce circuit. Ah oui, parce que quand on a arraché un arbre, on en a replanté 7 à chaque fois. Donc maintenant, il y a plus d'arbres dans le parc de Monza qui est mieux entretenu que jamais. Voilà pour les écolos. Donc heureusement, le circuit est passé au travers. La municipalité municipalité de Monza, le gouvernement de Monza, la région, Milan, la ville de Milan, on a tout fait pour garder ce circuit parce qu'il y a eu des menaces à un moment. Bah oui, parce que ça payait pas assez non plus. Il y en avait d'autres qui étaient prêts à mettre beaucoup plus d'argent sur la table. Et puis là, dans un, j'allais dire, un éclair de lucidité, même, pourtant il est italien, hein, je vais le citer une nouvelle fois, Stefano Domenicali, il a été patron de Ferrari, rendez-vous compte, eh bien ce type-là qui est prêt à vendre son âme au diable, à vendre la Formule 1 au diable pourvu qu'elle ait des dollars, là il est obligé de se rendre à l'évidence et là aussi on rétropédale en disant « Ah oui, quand même Monza c'est quelque chose ». Ben oui mon vieux, t'es italien, t'as dirigé une équipe italienne, tu le sais que c'est quelque chose. Ben pourvu que Monza vive, et pourvu que Monza vive longtemps, et pourvu que Monza nous permette de vivre des émotions aussi intenses que celle-là. Et je vous l'ai dit, au-dessus, ben, y a qu'un cran, hein, un seul cran, c'est le titre de champion du monde pour un pilote italien. Et c'est un pilote italien au volant d'une Ferrari qui gagne à Monza. C'était arrivé en 1966 avec Ludovico Scarfiotti, qui était parti de la première ligne de la grille de départ d'ailleurs avec sa Ferrari.
T'entends ce que je t'ai mis, Jean-Luc ?
J'entends.
La F2002, Sébastien Vettel qui l'a piloté à Monza, la voiture de Michael Schumacher. 15 courses en 2002, 10 victoires, 5 deuxième places. C'est à l'époque où les Ferrari n'avaient pas leur nouvelle voiture au premier Grand Prix.
Vous entendez cette sonorité, vous entendez ce chant magnifique.
À 90 degrés, atmosphérique, 3 litres de cylindrée, 900 chevaux, 19 000 tours minute.
Voilà.
Le régime maximum. C'était le Type 51.
Et pourvu qu'on retrouve ça bientôt en Formule 1 ou au moins des V8, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et là, la fête sera totale. La fête sera complète avec 22 ou peut-être d'ici là 24 monoplaces avec des miaulements. Je peux pas parler de bruit là. Avec des chants aussi magnifiques. Je crois que là aussi, quand on aime les sports mécaniques, on n'a pas de mots. J'en ai les poils d'entendre ça, moi. Je sais pas si vous. C'est fabuleux.
Je vais te faire ce cadeau-là pendant ton coup de cœur.
Ah, merci beaucoup. Merci, mon Arnaud. J'y suis très sensible.
C'était l'occasion d'en voir Sébastien Vettel, évidemment Yves Schumacher aussi pour Ferrari, ça a été aussi un bel hommage. Mais tout le monde était heureux de revoir Vettel, comme Alonso avait fait des tours avec sa Renault à Abu Dhabi. Je me souviens, Lewis Hamilton entendait le moteur hurler en disant oh, qu'est-ce que c'était bon cette époque. Et voilà. Peut-être revenir un jour. Merci Jean-Luc.
Merci
Séraphin, c'était un plaisir et on se retrouve jeudi avec l'équipe du paddock RMC pour on va vous présenter le circuit du Madring. Ça va être une grande surprise pour tout le monde. Et évidemment, le Grand Prix, les qualifications à suivre sur RMC. Très bonne semaine. À bientôt. Ciao.
Ciao.
Le paddock RMC.